VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 3 mai 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, la junte au pouvoir au Mali annule les accords de défense avec la France. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni sur la question à la demande de la Russie. En Centrafrique, Human Rights Watch accuse les paramilitaires russes de meurtre et torture sur des civils. En Somalie, une attaque d'un camp de l'Union africaine par Al-Shabaab a fait de nombreux morts. Ici aux États-Unis, manifestation près de la Cour suprême sur la question de l'avortement qui divise toujours le pays. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a terminé sa visite au Niger, entamée lundi à Niamey, en allant à la rencontre de déplacés et réfugiés de Wallam, dans l'ouest du Niger, qu'il a qualifié de population martyrisée par la violence djihadiste. Devant plusieurs dizaines de déplacés nigériens et de réfugiés qui ont fui le Mali et le Burkina Faso, rassemblés dans une cour d'école, M. Guterres a appelé à un renforcement de l'aide internationale au Niger qui, outre les attaques djihadistes, est également confronté à la sécheresse et aux effets du changement climatique. Au Mali voisin, le gouvernement a annoncé hier soir rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre Bamako et ses anciens alliés dans le combat contre les djihadistes. Le Mali a dénoncé en avril au Conseil de sécurité des violations répétées et délibérées de l'espace aérien national par des aéronefs étrangers, notamment par les forces françaises, à des fins d'espionnage, d'intimidation et de subversion. On écoute le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole de la junte malienne.
Depuis un certain temps, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France, eu égard à ses insuffisances graves, ainsi qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014, 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba.
Colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. La France a jugé pour sa part injustifiée la décision du Mali de dénoncer ses accords de défense. Le ministère français des Affaires étrangères a précisé que la France poursuivrait son retrait militaire en bon ordre comme prévu d'ici le mois d'août. Une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue à huis clos après la décision du Mali de rompre ses accords de défense avec Paris. La demande a été faite par la Russie et survient alors que cette instance doit décider en juin de renouveler ou non sa mission au Mali. La MINUSMA est forte de quelque 14 000 militaires et policiers. Des preuves convaincantes démontrent que des paramilitaires russes soutenant le pouvoir en Centrafrique qui ont commis de graves abus sur des civils, dont des meurtres et tortures en toute impunité depuis 2019. C'est ce qu'estime en tout cas Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Jacques Aristide.
Des forces identifiées par des témoins comme étant russes semblent avoir sommairement exécuté, torturé et battu des civils, écrit Human Rights Watch dans son rapport de 13 pages, basé sur les témoignages de dizaines de victimes, proches et témoins. Le document détaille l'exécution par des hommes parlant russe de 12 hommes le 21 juillet 2021 près de Bossangoa. Le rapport évoque également des exécutions extrajudiciaires présumées à Alindao en juin 2021 sur des hommes arrêtés au hasard dans la rue. L'ONG établit un lien entre ces forces russes et Wagner, qui a, selon elle, des liens manifestes avec le gouvernement russe. Le gouvernement centrafricain a certes le droit de demander une assistance internationale en matière de sécurité, mais il ne peut pas permettre à des forces étrangères de tuer et de maltraiter des civils en toute impunité, accuse Aida Soye de HRW. Sollicité par l'ONG sur les accusations du rapport, ni le gouvernement
centrafricain ni le ministère russe des Affaires étrangères n'ont donné suite d'après l'ONG. Moscou affirme systématiquement que les paramilitaires russes sont des instructeurs militaires non armés chargés d'entraîner les soldats centrafricains.
En Somalie, des militants islamistes radicaux, Shebab, lourdement armés, ont revendiqué une attaque ce mardi contre une base militaire de la Force de maintien de la paix de l'Union africaine, abritant des soldats burundais de l'ATMIS. Il y aurait de nombreux morts, mais le nombre de victimes est encore incertain. Claire Morin-Jibou.
L'assaut a eu lieu peu avant l'aube. Des combattants d'Al-Shabaab ont attaqué la base de l'Union africaine près du village d'El Baraf, à 160 km au nord-est de Mogadiscio, ont indiqué au service somalien de la VOA des responsables locaux et des sources de sécurité. Les militants ont réussi à s'emparer brièvement de la base avant de se retirer. Le maire d'El Baraf, Abdoulaye Hadji Mouhoumed, a déclaré que les militants ont commencé leur attaque avec deux camions piégés. Les combats ont duré jusqu'à 8 heures du matin. Le groupe Al-Shabaab affirme avoir tué 173 membres des forces de l'Union africaine et pris des prisonniers de guerre. Le maire d'El Baraf a confirmé de nombreux morts parmi les forces burundaises, mais sans donner de chiffres exacts. Le quartier général de la force africaine et les responsables militaires somaliens n'ont pas réagi dans l'immédiat.
Le président sud-africain, chassé des célébrations du 1er mai sous des huées, a reconnu aujourd'hui une perte de confiance générale. Le chef Cyril Ramaphosa a assuré avoir notamment entendu les griefs d'une classe moyenne confrontée à un chômage record. Une épidémie de dengue, maladie virale transmise par les moustiques, s'est déclarée depuis le 22 mars en Côte d'Ivoire, touchant principalement Abidjan et faisant un mort sur 11 cas enregistrés, a annoncé ce mardi le ministère ivoirien de la Santé. Le mode de transmission de la dengue est similaire à celui du paludisme et la saison des pluies en cours facilite la reproduction des moustiques en Côte d'Ivoire où une épidémie de dengue s'était déclarée en 2019 avec 130 cas et 2 décès recensés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les militants contre l'avortement et les partisans du droit à l'avortement sont descendus dans les rues de Washington ce mardi après avoir appris que la Cour suprême des États-Unis pourrait annuler l'arrêt Roe versus Wade, jurisprudence datant de 1973 légalisant l'avortement. Les détails avec Eric Manirakiza.
Une fuite sans précédent d'un document de la plus haute juridiction des États-Unis laisse entendre que la Cour se prononce en faveur de l'annulation de l'avortement légal. L'un des juges conservateurs de la Cour, Samuel Alito, a écrit que l'arrêt Roe v. Wade était absolument erroné depuis le début, selon le document daté du 10 février, dont le journal Politico a publié une copie sur son site internet. D'après Politico, quatre des autres juges conservateurs de la Cour suprême se sont rangés derrière l'avis de Samuel Alito. Quelques heures après la nouvelle, des militants anti-avortement et des partisans du droit à l'avortement se sont affrontés devant la haute cour tout près du Congrès américain. La Cour suprême a confirmé mardi l'authenticité de ce document interne, tout en soulignant qu'il ne représentait pas la décision finale de la haute juridiction. Dans un communiqué, le chef de la Cour, le juge John Roberts, a ajouté avoir ordonné une enquête pour découvrir l'origine de la fuite de cet avant-projet d'arrêt. La Maison-Blanche appelle les électeurs à choisir des candidats favorables au droit d'avorter lors des élections de mi-mandat en novembre. « Je crois que le droit des femmes à choisir est fondamental », a rappelé dans un communiqué le président Biden. Côté républicain, on se félicite d'une décision vue comme une immense victoire rendue possible par le profond changement de la Cour suprême qui compte maintenant 6 juges conservateurs sur 9. La question de l'avortement est l'une des plus sensibles et polarisantes aux États-Unis depuis près d'un siècle.
Les États-Unis ont affirmé aujourd'hui qu'ils considéraient désormais officiellement que la star américaine du basket, Brittany Griner, arrêtée mi-février en Russie, était injustement détenue et devrait donc accélérer les efforts pour exiger sa libération. Le gouvernement américain continue aussi de réclamer la libération d'un autre de ses ressortissants, Paul Whelan, condamné à 16 ans de prison pour espionnage et qui clame son innocence. Emmanuel Macron sera investi samedi pour son second mandat à la tête de l'État français après sa victoire à l'élection présidentielle le 24 avril. Cette cérémonie qui se tiendra dans la salle des fêtes de l'Élysée devrait être sobre et dans le respect des principes républicains selon la présidence française. Emmanuel Macron a obtenu 58,55% des suffrages au second tour face à Marine Le Pen, la candidate du parti d'extrême droite Rassemblement National, qui en a recueilli 41,45%. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Le ministre sénégalais de l'économie, Amadou Hoth, a lancé avec l'ambassadeur de la Belgique un programme Climat Sahel qui permet au pays de bénéficier d'une enveloppe de 11,5 millions d'euros pour renforcer la résilience des populations du Sahel. Le ministre a précisé que ce programme voulait améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et restaurer de manière durable les écosystèmes naturels du Sahel dans le cadre de la lutte contre la désertification. Grand Bassam en Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir du 5 au 6 mai une conférence internationale sur l'économie sociale et solidaire pour l'Afrique, organisée par l'IOT et la Commission de l'Union africaine. Gouvernements, syndicats, organisations patronales et représentants des réseaux africains de l'économie sociale et solidaire se réunissent pour échanger les bonnes pratiques et développer l'ESS à l'échelle du continent. Ici aux États-Unis, le comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine a entamé ce mardi une réunion de 2 jours à l'issue de laquelle il annoncera, sauf surprise, une hausse des taux directeurs d'un demi-point de pourcentage, la première de cette ampleur depuis mai 2000, pour tenter de contrôler une inflation record.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Le club espagnol Villarreal accueille ce soir son homologue anglais Liverpool de Sadio Mané et Mo Salah en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueur 2-0 au match aller mercredi dernier, Liverpool va tenter de valider son bon résultat en Espagne et composer son billet pour la finale au Stade de France le 28 mai. Avide de réagir à domicile, Villarreal va essayer de son côté de renverser la vapeur. Tombeur au tour précédent de la Juventus Turin et du Bayern Munich, Villarreal a déjà démontré qu'il était capable d'embêter les grands d'Europe et croit en ses chances à la maison ce soir. La FIFA annonce ce mardi avoir ouvert une enquête disciplinaire contre 3 entraîneurs et un haut responsable du football gabonais soupçonné depuis fin 2021 de multiples agressions sexuelles de joueurs mineurs. La chambre disciplinaire de la FIFA confirme ainsi la suspension provisoire infligée le 17 décembre par la Fédération gabonaise de football à Patrick Assoumou Eyi, surnommé Capello, accusé d'avoir abusé de plusieurs centaines de jeunes garçons et d'en avoir fourni également à d'autres figures du sport national. La FIFA a aussi ouvert des procédures distinctes contre 2 autres entraîneurs gabonais, Trifel Mabika et Orfe Mikala, ainsi que le président de la Ligue de football de l'Estuaire, Serge Ahmed Mombo. Ces 3 hommes sont bannis pour 90 jours de toute activité administrative ou sportive dans le football au niveau national et international. Pour terminer, au Maroc, face aux spéculations autour d'un départ du coach des Lions de l'Atlas, Vahid Alioudic, la Fédération marocaine de football dément le limogeage de son sélectionneur, dont le futur paraît incertain à quelques mois du Mondial 2022. Le technicien bosnien a aidé le Maroc à décrocher son billet en mars pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Mais, malgré cette qualification, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a été critiqué au Maroc pour ses choix, comme sa décision de ne plus convoquer en équipe nationale la vedette de Chelsea, Hakim Ziyech, et le défenseur de l'Ajax Amsterdam, Nusser Mazraoui, qui sont brouillés avec lui. Il a déjà été écarté par la Côte d'Ivoire qu'il venait de qualifier pour le Mondial 2010, puis par le Japon qui s'était hissé vers le Mondial 2018.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, dans un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale, le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, a dénoncé le traité de coopération en matière de défense signé le 16 juillet 2014 avec la France. Comment cette nouvelle phase de la tension dans les rapports entre les deux pays est perçue par les Maliens? Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Rien ne va plus entre Paris et Bamako. Après l'escalade verbale, le renvoi d'ambassadeurs, la décision de retirer la force française Barkhane, c'est l'accord de défense qui vient d'être véhément dénoncé par les autorités de la transition malienne. Pour Ibrahim Cissé, observateur de la scène politique malienne, c'est une suite logique du retrait de Barkhane et donc une officialisation de la rupture.
Mais cette dénonciation a quand même le goût d'une rupture de cet accord-là entre les deux pays. Donc, mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que c'était déjà fait. L'accord était déjà caduque du moment où la France avait déjà annoncé son retrait. Et quand une des parties ne respecte plus l'accord, donc l'accord n'a pas sa raison d'être. Donc du coup, ce que moi je pense quand même, c'est du fait que le gouvernement ait annoncé ça, on peut le mettre dans le cadre d'officialiser la rupture.
L'analyste Mohamed Mamata Touré pense qu'il ne peut s'agir d'une rupture en l'état. Il s'agit plutôt, selon lui, d'une phase de négociation qui va s'ouvrir et pouvant s'étendre sur une certaine période comme prévu par l'accord.
Et vous savez, il faut qu'on fasse la part des choses. Vous savez, les autorités maliennes ont envoyé une notification. Une notification, ça ne veut pas dire qu'on va mettre fin à cet accord de défense et de coopération tout de suite et maintenant. Donc c'est une procédure qui est sur 6 mois et une procédure qui passe par des étapes aussi. Donc au cours de ces étapes, il se peut que la partie française et la partie malienne vont s'asseoir maintenant pour discuter s'ils doivent mettre fin à cet accord ou bien s'ils doivent aller à un nouvel accord encore.
Si le gouvernement dit dénoncer avec effet immédiat, pour Yacouba Daou, agent d'une ONG locale, il s'agit de tirer les leçons de cette coopération militaire tout en tenant compte des populations qui sont les premières victimes de la crise sécuritaire.
Il s'agit maintenant de chaque côté de voir maintenant quel est l'intérêt à tirer de cette convention-là qui vient quand même de prendre fin. Donc nous espérons que les conséquences ne vont pas avoir quand même des choses négatives sur la population et que la population n'en souffre pas des deux côtés, que ce soit la France et le Mali.
Les actes unilatéraux posés par la France dans le cadre de ces accords, les violations de l'espace aérien malien par les aéronefs français sont les motivations de cette décision, peut-on lire dans la lettre du ministère des Affaires étrangères adressée à l'ambassade de France au Mali. Cette dénonciation prend également en compte le statut de la force Takuba de l'Union européenne. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a achevé ce mardi sa visite de 2 jours au Niger, où il allait se rendre compte de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans ce pays, confronté depuis des années à de multiples défis. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
En regardant la performance remarquable de l'armée du Niger, la communauté internationale doit investir à fond dans le renforcement des capacités de l'armée du Niger.
C'est l'une des principales déclarations du secrétaire général des Nations Unies lors de sa visite au Niger. Pour le journaliste spécialiste des questions sécuritaires Moussa Aksa, cet appel de Guterres est très à propos.
L'armée nigérienne a une tradition de lutte contre les groupes armés terroristes. Si vous rappelez, depuis les années 2000 jusqu'à 2003, l'armée nigérienne était la première qui a chassé Abdelazak El Para, qui était le patron du GSPC algérien. Donc, c'est une armée qui est bien encadrée et qui a su faire ses preuves sur le théâtre des opérations. Mais cette armée aussi, elle a besoin d'un appui aérien, surtout de forces. Les forces de défense et de sécurité ont plus besoin de l'aviation. Ils ont besoin du matériel lourd, c'est-à-dire que des blindés, mais aussi des ressources pour financer le renseignement. Parce que le renseignement humain dans cette zone sahélienne est très important. Donc c'est pour cela que cette déclaration du secrétaire général de l'ONU est à point nommé. En dehors de tout ceci, il faudrait que les institutions internationales fassent pression sur le gouvernement nigérien pour qu'il puisse placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut.
Djibril Seydou, analyste, estime pour sa part qu'au-delà des financements, les armées du Sahel en général ont besoin davantage de réorientation stratégique et de bonne gouvernance.
Au-delà des investissements dans les armées, il faut également consolider une coopération entre les différentes armées, notamment en ce qui concerne des actions conjointes, mais également pour ce qui est de la sécurisation des frontières. Mais il ne faut pas également perdre de vue que le défi en termes de sécurité au Sahel, c'est aussi d'intensifier les investissements pour assurer une meilleure protection des civils, pour promouvoir une stratégie politique qui s'attaque aux causes profondes de la crise, donc du terrorisme. Il faut également apporter des réponses à l'urgence humanitaire et enfin, il faudra efficacement lutter contre l'impunité qui fait souvent le lit à certaines situations d'injustice ou d'inégalité qu'on perçoit à l'échelle de certains pays du Sahel.
Après une visite ce matin sur un site de déplacés à 100 km de Niamey, Antonio Guterres s'est envolé pour le Nigeria, dernière étape de sa tournée africaine. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la tournée du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest cette semaine. Il s'agit d'un périple effectué précisément au Sénégal, au Niger et au Nigeria. Antonio Guterres réclame le départ des jeunes qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. L'occasion également pour lui d'aborder le danger terroriste au Sahel, tout comme celui du climat, sans oublier l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine sur l'Afrique. Que pensez-vous de ce voyage africain d'Antonio Guterres? Que peut davantage faire l'ONU pour aider le continent? Faites vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Au Nigeria, la décision du parti présidentiel The All Progressive Congress, APC, de vendre ses formulaires de nomination présidentielle à 100 millions de naira provoque des réactions dans le pays. Beaucoup de Nigériens sont choqués car ils estiment que cela va encourager davantage la corruption. Le reportage de notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja.
Depuis l'annonce de la décision du parti présidentiel, les commentaires et critiques ont inondé les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour dénoncer le prix jugé trop exorbitant des formulaires de nomination fixés par l'APC du président Muhammadu Buhari. Les candidats à la présidence du parti devront payer 100 millions de naira, soit près de 240 000 dollars américains pour les formulaires de nomination, tandis que pour les postes de gouverneur, les frais sont fixés à 50 millions de naira, l'équivalent de 120 000 dollars. Les réaction de Fet Mwadiji, activiste, et Faiza Nazir, une habitante d'Abuja, qui sont toutes les deux scandalisées par cette décision.
Nous parlons d'un formulaire qu'il faut acheter à 100 millions de naira. Vous imaginez combien de personnes ce montant peut sortir de la pauvreté en un clin d'œil? Et vous demandez aux gens de payer 100 millions? Donc ce que nous disons, c'est que c'est devenu un investissement. C'est demander aux gens de venir investir parce qu'il y aura des bénéfices après.
C'est absolument scandaleux. Vous savez, certains de ces gens peuvent avoir le soutien des populations, mais ils n'ont pas cet argent. Considérant la situation économique actuelle, ce n'est pas facile de trouver 100 millions juste comme ça. Avec ça, vous n'achetez plus un formulaire pour contester un poste de la fonction publique que tout le monde a le droit. Mais c'est comme si vous achetiez un espace et vous n'êtes même pas sûr que vous remporterez l'élection.
Des millions de Nigériens sont choqués. Certains pensent que le coût exorbitant pour acheter un formulaire de nomination vise tout simplement à encourager la corruption. Soit on achète pour avoir un retour sur son investissement, ou bien c'est pour cacher un blanchiment d'argent. Emmanuel Wubiko est le président de l'Association nationale des écrivains des droits humains.
This 100 million naira price has been slammed.
Ce montant de 100 millions de naira fixé pour acheter un formulaire pour déclaration d'intention ou quoi que ce soit est la plus grande manifestation de la corruption. Parce que seuls ceux qui ont gagné de l'argent par des moyens illégaux peuvent gaspiller 100 millions de naira.
Ces critiques n'ont pas empêché les hommes politiques du parti APC désirer de remplacer Buhari à la tête du Nigeria, car deux ont déjà acheté leur formulaire. Yahya Bello, actuel gouverneur de l'état de Kogi dans le centre du pays.
J'accepte d'être candidat pour nous tous et de porter les couleurs de notre parti lors des élections et devenir notre prochain président.
Le président Buhari avait critiqué son parti en 2014 alors qu'il convoitait le ticket parce que les frais étaient fixés à 27,5 millions de naira, un peu plus de 66 000 dollars pour les formulaires avant les élections générales de 2015. Pour l'élection de 2023, le parti a augmenté les mêmes frais de plus de 200% par rapport à 2014. Les deux principales formations politiques sont accusées de transformer la fonction publique en un produit commercialisé et commercialisable à travers la tarification des formulaires de nomination, ce qui signifie pour d'autres Nigériens que les élections à des postes publics sont réservées aux plus riches. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Le monde entier célèbre ce 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, un constat a été fait en République démocratique du Congo. Peu de femmes ont l'opportunité d'exercer ce métier alors qu'elles en ont les compétences. Pour montrer le savoir-faire des femmes dans le domaine des médias, l'Union congolaise des femmes des médias a mis en place à Goma depuis 3 ans un journal 100% féminin afin d'encourager les femmes à pratiquer le journalisme. Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma, est allé à leur rencontre et nous propose ce reportage.
Ce sont les portes du bureau de l'Union congolaise des femmes des médias, ICOFEM. Ce bureau abrite également une salle de rédaction où ces jeunes femmes qui terminent à la faculté des sciences de l'information et de la communication viennent pratiquer le métier des journalistes en rédigeant des articles d'actualité et en enregistrant des émissions sur la vie quotidienne à Goma. La composition de cette équipe de rédaction est inédite, uniquement des femmes, y compris les responsables, ce qui n'affecte pas la bonne ambiance ou le sérieux du travail de ces femmes. Ces lundi, elles ont tenu leur toute première conférence de rédaction du mois de mai, avec un focus sur les différents sujets à traiter cette semaine, notamment la liberté de la presse en RDC, et en particulier au Nord Kivu, province dirigée par le militaire depuis un an. Pour elles, les femmes doivent prendre les devants et ne pas se sous-estimer.
J'appellerai toutes les femmes, toutes les filles qui font le journalisme, la communication, de venir et que nous soyons nombreuses, qu'elles enlèvent la peur de travailler dans le journalisme, donc de travailler en tant que journaliste femme.
Travailler sans aucun homme ne dérange pas ces femmes qui se sentent largement capables de faire le même travail que les hommes, comme le martèle la rédactrice en chef.
Nous ne dépendons pas des hommes pour travailler. Donc nous pouvons travailler main dans la main pour concevoir une seule chose, voilà.
La directrice de l'Union congolaise des femmes des médias révèle que l'idée derrière cette initiative est de donner aux femmes le moyen d'occuper les postes de décision dans les salles de rédaction dans un avenir proche.
Ma lutte est de donner le goût
à ces jeunes journalistes. Parce que actuellement, avec nos communautés, avec les us et coutumes, avec tous les stéréotypes autour de la femme journaliste, nous voulions que tous ces stéréotypes cessent.
L'Union congolaise des femmes des médias s'attaque à la réticence des femmes à exercer le métier des journalistes et se bat pour atteindre l'horizon 2030 avec l'égalité des femmes dans les différentes rédactions. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de